RFI, grand reportage.
Cette étable ressemble à toutes les anciennes étables dans le Wisconsin. C'est une petite étable construite pour héberger entre 30 et 35 vaches. Chez nous, le long de la route 73, il y a 20 étables identiques à celle-là. Mais seules 3 d'entre nous continuent de traire.
Le Wisconsin est l'un des États les plus disputés de cette élection présidentielle américaine. En 2016, Donald Trump l'avait remporté avec moins de 23 000 voix d'avance sur Hillary Clinton. Cette victoire a été possible notamment grâce au soutien des zones rurales. Le Wisconsin, aussi appelé la crèmerie de l'Amérique, est réputé pour sa production laitière et ses fromages. Donald Trump avait promis d'y sauver les exploitations familiales, mais la réalité dans ce petit état du Nord a été finalement tout autre. Les électeurs ruraux sont partagés entre d'un côté déception et colère et de l'autre un soutien sans faille au président sortant. Entre ces deux camps, tous les liens semblent rompus. Le Wisconsin rural, divisé à l'approche de la présidentielle américaine, c'est un grand reportage de Stéphanie Schuller et Bertrand Eclair.
La ferme de Mitch Bruinig s'appelle Mystic Valley Dairy, ce que l'on pourrait traduire par « laiterie de la vallée mystique ». Entourée de collines aux couleurs de l'automne, elle porte bien son nom.
Hi, Mr. Bruinig.
Hey. You wanna go in?
Vous voulez rentrer ou rester dehors?
Vous nous montrez votre ferme?
Oui, allons dans l'étable. Il y fait plus chaud.
Combien de vaches avez-vous?
Environ 430.
Combien de personnes sont nécessaires pour les traire?
Nous avons 8 employés.
En 2016, vous avez voté pour Donald Trump, right? En tant que producteur de lait, comment avez-vous vécu ces 4 dernières années?
Ça a été de la folie. Nous avons connu des prix de lait décents, puis des prix très bas, puis l'épidémie de Covid. Ça a été des montagnes russes. Vous savez, dans le Wisconsin, nous produisons beaucoup de lait. Si le Wisconsin était un pays, il serait le 4e plus grand producteur de lait au monde. 90% de notre lait quitte le Wisconsin. La grosse partie part au Mexique, qui est notre premier partenaire commercial. Nous avons aussi essayé d'entrer sur le marché chinois. On commençait tout juste à faire de bonnes affaires quand tout à coup la guerre commerciale de Donald Trump nous a coupé dans notre élan et a remis les compteurs à zéro.
I know China's gone to Europe and South America and other countries to find the same products that we sell.
La Chine s'est tournée vers l'Europe et l'Amérique du Sud pour trouver les mêmes produits que ceux que nous vendons. Et puis, nous ne savons pas du tout quels seront les effets à long terme de ces guerres commerciales. Parce que lorsque nous perdons nos partenaires commerciaux alors que nous continuons à produire du lait sans avoir la possibilité de le vendre, c'est franchement mauvais.
Quand la crise du Covid est arrivée, que s'est-il passé chez vous?
La personne qui transforme mon lait travaille en grande partie pour les restaurants et les écoles. Avec le confinement, ce marché s'est immédiatement effondré. Toutes les commandes ont été annulées. Un soir, nous avons reçu un coup de fil. À partir de lundi, vous devez produire 20% de lait en moins. J'ai vendu quelques vaches, j'ai réduit la lactation de quelques autres, mais ça ne suffisait toujours pas. Si j'avais continué à distribuer le lait en trop, je n'aurais pas été payé pour autant, alors que moi, j'aurais dû payer pour son transport. Donc, on n'a pas eu d'autre choix, on a jeté le lait.
Vous l'avez jeté où ?
Nous avons installé un gros tuyau depuis la salle de traite jusqu'ici. Et nous avons versé le lait dans la fosse à fumier, ici au milieu de l'étable. Pendant 8 jours d'affilée, nous avons ainsi jeté tout le lait de la traite du matin. Tout ce boulot pour le verser aux toilettes. C'est littéralement ça que nous avons dû faire. C'était vraiment frustrant.
On y est presque.
Bah oui, je pense qu'on y est déjà passé.
6h du matin, dans la nuit noire, pas facile de trouver la ferme laitière de la famille Inchley à Cambridge.
Hello Tina!
Garez-vous devant l'étable de traite. Un veau est né cette nuit, on va devoir s'en occuper.
À quelle heure vous levez-vous tous les matins, Tina?
Ça dépend, normalement, entre 4h30 et 5h. Nous avons des caméras qui nous permettent de savoir ce qui se passe. Ce matin, j'ai vu le veau et donc je suis sortie. Notre ferme fonctionne avec des robots. On ne s'occupe plus de traire les vaches. On s'assure juste qu'elles passent par le robot.
Là, on rentre dans l'étable, donc. Hop.
We're gonna head this way.
OK. Vous passez, on vous suit.
Il y a 2 ans, les Hinchley ont investi 3 millions de dollars afin de moderniser leur ferme. La guerre commerciale et la crise sanitaire ont été autant de coups durs pour la famille.
Pour de nombreuses fermes, il a été difficile de se maintenir à flot. Avec la chute des prix, les banques ne veulent plus accorder de crédit. L'année dernière, 818 fermes laitières ont fait faillite dans le Wisconsin. Ce sont des familles. Pour les communautés où étaient situées ces fermes, cela représente vraiment une immense perte.
À l'approche des élections, l'administration Trump a débloqué 19 milliards de dollars de subventions agricoles en mai et un nouveau plan d'aide de 13 milliards de dollars en septembre.
Les récents plans d'aide sont clairement bénéfiques. Ils nous aident à payer nos factures. Mais soyons réalistes, plus tard, quelqu'un va devoir payer pour tous ces plans de sauvetage. Oui, nous avons besoin d'aide maintenant, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils achètent des voix.
Même si les robots ont remplacé les humains pour la traite des vaches, il reste encore beaucoup de choses à faire. Ce matin, Tina Hinchley doit prodiguer les premiers soins au veau qui vient de naître, le vacciner et l'amener à la nurserie où une trentaine d'autres veaux attendent déjà d'être nourris, au biberon pour les plus jeunes, avec des seaux remplis de lait pour les plus grands.
Peut-être que vous pourriez m'aider à porter les seaux ?
Yes.
On va vous aider.
Vous, il vaut mieux que vous commenciez par prendre 2 seaux.
Vous ne me pensez pas capable d'en prendre 4 ?
Parfois, mieux vaut être prudent.
À l'approche des élections, Tina Hinchley n'a pas que la situation économique en tête. Elle se réfère au contraire aux grandes questions de société pour afficher son soutien au candidat démocrate Joe Biden.
La plupart des fermes n'avaient pas d'assurance maladie avant la loi Obamacare. En cas de maladie, on vendait des vaches ou de la terre. Maintenant, avec la réforme du système de santé, nous sommes couverts. Perdre à nouveau cette couverture représente une énorme menace. En 2006, on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. On n'avait pas d'assurance. Ça nous a coûté 180 000 dollars. Nous avons dû trouver un plan de financement et payer. Mais en 2013, j'ai fait une rechute, un cancer du sein. Heureusement, à ce moment-là, la loi sur les soins abordables était déjà en vigueur. C'est stressant quand on vous dit qu'on va vous enlever votre assurance et que je risque de ne pas en trouver une nouvelle parce que je suis désormais une patiente avec des conditions préexistantes.
Est-ce que dans ce coin, beaucoup de fermiers emploient des travailleurs latino-américains ? Et que pensez-vous de la rhétorique anti-immigration de Donald Trump ces 4 années ?
Ici, nous avons absolument besoin d'une solution concernant la question de l'immigration, parce que les agriculteurs ont définitivement besoin d'aide. Il est impossible pour nous de faire notre travail tout seul. Nous devons garantir que chaque immigré ici a un permis de conduire et une sorte de pièce d'identité en règle pour notre sécurité et la leur. Miser sur un mur à la frontière est complètement ridicule. Je veux croire que nous, les partisans de Joe Biden, sommes la majorité silencieuse. Nous n'avons pas besoin de planter des affiches dans nos jardins. Nous allons juste tous voter.
Et si vous plantiez une affiche de Biden dans votre jardin, il se passerait quoi ?
Avec une affiche de Joe Biden devant ma maison, je perdrais probablement la moitié de mes clients agrotouristes. Avant l'arrivée de Trump, on était amis avec tout le monde. Maintenant, nous devons faire des choix, parce que certains sont devenus très agressifs. Ça fait partie de leur nouvelle nature. Nous sentons leur racisme.
Les États-Unis ont toujours été un pays avec différentes cultures, différentes approches idéologiques. Que s'est-il passé ? Pourquoi les gens ne se parlent plus ?
Trump a clivé ce pays et nous a divisés sur des choses qui ne devraient pas être source de division. Les Noirs, toutes les personnes de couleur, les femmes, les musulmans, les handicapés. Pourquoi sont-ils tous devenus des cibles? En les ciblant, les gens et les communautés se sont éloignés les uns des autres.
It has pulled people and communities apart.
It was a pleasure to meet you, Tina.
Donc vous sortez par là où vous êtes arrivé. Quand vous voyez la vache, vous prenez à gauche. Les Jellinex, c'est la prochaine ferme sur la route.
Thank you guys.
Bye bye. Thank you. Merci. Allez.
Tom Jellinek possède 65 vaches laitières. À notre arrivée, il descend de son tracteur et se montre d'abord très méfiant.
J'ai un gros problème, je ne fais pas confiance aux médias.
Pourquoi ?
Ils ont fait preuve d'une grande malhonnêteté, ils sont biaisés.
Finalement, le fermier accepte de nous parler en coup de vent. D'emblée, il se dit très satisfait de l'action de Donald Trump et notamment des guerres commerciales.
Elles sont utiles parce qu'on s'était fait avoir par tous ces traités commerciaux. L'Amérique ne fait que donner, donner, et eux ne font que prendre et prendre sans qu'on obtienne quelque chose en retour.
Donc vous êtes content ?
Je suis très content de ce qu'il a fait. Bon, bien sûr que ça nous a fait mal sur le coup, mais maintenant les autres réalisent que s'ils veulent nos produits, ils doivent être fair play.
Si vous voulez nos produits, vous devez jouer ball, et vous devez être fair.
Pour prendre votre décision pour qui voter, quels sont les thèmes prioritaires pour vous ?
Il est très pro-vie, comme moi. Ça me fatigue de voir le taux d'avortement en hausse dans ce pays. Et j'aime posséder mes armes, j'aime chasser. Et je ne veux pas que quelqu'un m'enlève les armes dont j'ai besoin pour me protéger. Je crois que Donald Trump va gagner. Malheureusement, ce sera probablement serré. Mais si Joe Biden gagne, je l'accepterai aussi, c'est le jeu.
Nous reprenons la route. À notre grande surprise, et contrairement à ce que nous avons observé en ville, ici à la campagne, très peu d'habitants affichent leur choix politique par des pancartes électorales plantées dans leur jardin. Sur notre chemin, à travers champs, une maison attire notre attention. Accroché à un mât, le drapeau américain flotte au vent, et en dessous un autre, Wisconsin pour Trump.
Hello, sir. Hey, how are you? Very good, and you?
Now, excuse us, we've been hunting, so...
Ici vit Eric avec sa famille et en cet après-midi, il a donné rendez-vous à ses beaux frères Tom et Mark. Les trois ne souhaitent pas donner leur nom de famille, mais nous invitent à les rejoindre dans ce qui fut anciennement une grange, transformée en repère de chasseurs. Bois de gibier et peau de castor au mur et une carabine posée sur une grande table autour de laquelle nous prenons place.
Avant, c'était une ferme laitière ici. Elle appartenait à mon grand-père. Mon père l'a reprise. Il s'est lancé dans la production de tabac, de maïs et de soja. Moi, maintenant, je travaille à l'hôpital universitaire du Wisconsin. Je m'occupe du chauffage et de la climatisation.
Donc vous ne travaillez plus la terre de votre ferme ?
Non, j'ai dû trouver un boulot. J'ai eu mon propre business, mais j'ai fini par prendre un emploi salarié. L'économie n'était pas au top.
Ici, nous sommes conservateurs, des gars de la classe moyenne qui vont au boulot tous les jours et qui prennent soin de ce petit bout d'Amérique que nous avons ici, de notre petit bout du monde. Les étrangers pensent peut-être que l'Amérique, ce n'est que du strass et des paillettes. Mais en réalité, la colonne vertébrale de l'Amérique, c'est la classe moyenne. C'est ce qui explique pourquoi Donald Trump a été élu la première fois. Il s'est adressé directement à nous. C'est ça qui nous a motivés pour le soutenir.
Avez-vous l'impression d'avoir été entendu ces quatre dernières années ?
Nous avons enfin une voix, oui. Quand vous allez aujourd'hui à l'un de ces meetings, vous constatez l'immense enthousiasme des participants, des gens qui n'ont jamais voté de leur vie mais qui votent maintenant, alors qu'avant, on n'avait pas de voix.
La mobilisation du mouvement antiraciste Black Lives Matter, qui a gagné tous les États-Unis en début de l'été après la mort de l'Afro-Américain George Floyd, a eu aussi des répercussions sur le Wisconsin. Kenosha, petite ville au sud de Milwaukee, a connu des semaines de manifestations, mais aussi de violence, après qu'un policier blanc a tiré à 7 reprises dans le dos de l'Afro-Américain Jacob Blake en août. Madison, la capitale du Wisconsin, a également connu des émeutes. Alors que les progressistes accusent le président d'attiser la haine raciale, Mark, Eric et Tom ont été avant tout choqués par les pillages et les destructions.
Nous travaillons à Madison et ce que nous avons vu était très inquiétant, c'était horrible. Il y avait beaucoup de destructions, des gens ont perdu leurs magasins, leurs gagne-pain.
Tous les matins, je pars à l'hôpital qui se trouve en centre-ville. Ça brûlait dans les rues. Tout était barricadé.
C'est une chose de manifester, mais des manifestations émaillées de violence ne devraient pas être tolérées.
Le gouverneur aurait dû intervenir immédiatement, ou les citoyens auraient dû s'en occuper. Ça reste notre ville. Les gens qui ont fait ça n'ont rien à faire ici. Et comme l'a dit le président, les autorités du Wisconsin n'avaient qu'à passer un coup de fil. Il aurait envoyé la garde nationale et ça aurait été réglé en une heure.
J'ai rarement eu l'impression d'une telle division au sein d'une société, même dans les familles et entre amis. Est-ce quelque chose qui vous fait peur ?
Ça me fait terriblement peur. De ma vie, je n'ai jamais vu des gens aussi divisés, républicains ou démocrates. À la fin de tout ça, nous devrons nous asseoir et prendre un café ensemble. Mais les gens sont très divisés et ils ont peur.
Si Donald Trump gagne cette élection, je crois qu'il y aura beaucoup de chaos, beaucoup de haine, beaucoup de manifestations.
Je pense que des gens comme nous devront intervenir et reprendre le contrôle s'il le faut.
Vous vous préparez pour ça ou vous n'y pensez pas encore ?
On y pense. Nous sommes la majorité silencieuse, mais nous nous préparons. J'espère que ça n'ira pas trop loin, mais je possède beaucoup d'armes.
Tout d'un coup, pourtant, une nostalgie s'installe dans la grange.
La meilleure époque, c'était celle de mon grand-père, quand il a débarqué pour cultiver le tabac. C'était un travail manuel dur, mais tous les voisins, tous les gars étaient là pour aider. On faisait tout ensemble. Dès que l'un des voisins avait besoin d'aide, tout le monde était là. Peu importe nos points de vue politiques, on travaillait ensemble dans les champs et après on se prenait une bière et on parlait. Et personne ne s'agressait parce que le lendemain, il fallait retourner dans les champs ensemble. On a appris à s'entendre, à se respecter.
Et maintenant ?
Et maintenant, ça a changé. On n'a plus cette camaraderie. Ce lien qui nous unissait, je ne le vois plus.
C'est très triste.
À une centaine de kilomètres de là, Mitch Breunig a fini le travail de la journée. Il quitte ses vaches pour rejoindre son fils au football. À la question de savoir s'il a déjà décidé pour qui il va voter, ce jeune fermier répond.
Vous savez, j'aime être un électeur indépendant. J'aime voter pour les gens qui ont de bonnes idées. Et pour moi, cette élection, c'est avant tout du bruit. Donald Trump fait beaucoup de bruit. Les gens autour de Joe Biden aussi. Pas tellement Joe Biden lui-même. Il n'a pas trop parlé, en fait. Je n'ai toujours pas décidé quelle voie je vais prendre. Mais quand je prends un peu de recul face à tout ce bruit, je pense avant tout que l'agriculture n'est pas partisane. Les humains vont toujours devoir manger. Comment allons-nous produire cette nourriture ? Comment s'assurer que chacun ait accès à la nourriture ? Si nous voulons enfin avancer sur ces questions, nous devons travailler avec les deux parties. Pourtant, en ce moment, tout le monde ne fait que se crier dessus. Et pour moi, c'est tellement frustrant.
Le Wisconsin rural, divisé à l'approche de la présidentielle américaine, c'est un grand reportage de Stéphanie Schuller et Bertrand Eclair. Réalisation Eva Piedel.